Binge Audio.
Bonjour à tous mes très chers amis. La révolution romantique est-elle un truc de blanc, un truc de blanche? La révolution romantique, c'est un concept dont on parle beaucoup en ce moment. Si on remonte dans l'histoire, le romantisme est un mouvement artistique et littéraire qui date du XVIIIe et XIXe siècle. Il se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale, en opposition à la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, ce concept est à nouveau envisagé comme une arme, mais face au capitalisme. Notamment par l'essayiste Coco Spina, qui affirmait dans Manifesto 21 « Nous sommes à l'aube d'une révolution romantique intersectionnelle pour, je la cite, « remettre en question la rationalité viriliste, faussement scientifique, qui fonde notre système de savoir ». Parallèlement, le concept de révolution romantique est aussi convoqué pour dénommer le foisonnement de productions artistiques et culturelles autour de l'amour, du couple et de notamment comment faire cohabiter féminisme et couple hétéro. Chez nous, chez Binge, on cite bien évidemment le cœur sur la table. Récemment est sorti un livre qui m'a interpellée, de l'autrice Christelle Murula, « Nos amours silencés, repenser la révolution romantique depuis les marges ». Elle y explique, entre autres concepts, que déconstruire son couple, c'est un truc de privilégié. Parce que pour certaines femmes, racisées notamment, le couple n'est pas un horizon si facilement accessible. Que quand on est dans les marges, on n'a pas d'autre choix que de faire sa propre révolution romantique, car on n'a pas droit au petit confort de la norme. C'est pas une question de choix ou de déconstruction, c'est une question de survie. Donc pour une fois, je vais pas commencer cet épisode en évoquant un événement de ma vie perso ou en délivrant un édito. Non. Aujourd'hui, je vais fermer ma gueule et écouter, en posant 2-3 questions quand même. La révolution romantique est-elle donc un truc de blanc, un truc de blanche?
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Merci d'être avec nous. Nous recevons donc pour mener cette conversation Christelle Murula. Christelle Murula qui est l'autrice de Nos amours silenciers, repenser la révolution romantique depuis les marges. Salut. Bienvenue, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Et Douce Dibondo, tu es poétesse et autrice. Tu as collaboré à l'ouvrage collectif Fruit de la colère, embrasser nos débordements. Et tu as géré le podcast Extimité depuis 2018. Ma première question, elle s'adresse à toi Christelle. Pourquoi as-tu voulu travailler, remettre en question ce concept de révolution romantique?
Alors, en fait, le travail que j'ai fait sur ce livre, il a été hyper long. C'est-à-dire que je l'ai pitché à ma maison d'édition, donc les éditions d'Aaron, c'était juste après le confinement. Et je voulais faire, à la base, je voulais vraiment écrire un livre sur le célibat, sur comment est-ce que la figure de la femme célibataire était vue, était perçue dans la société, et comment est-ce que on pouvait encore, aujourd'hui, en tant que femme ou en tant que femme féministe, mettre le couple au centre de nos vies. Et donc, il s'est passé beaucoup de temps et il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où j'ai pitché l'idée et le moment de la sortie. C'est-à-dire qu'il y a eu un foisonnement d'œuvres, de podcasts, de livres qui, justement, évoquaient la révolution romantique, évoquaient la place du couple dans la vie des femmes et comment est-ce que les femmes étaient, pratiquement systématiquement dominés en fait dans leur couple et surtout dans leur couple hétérosexuel. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui sont sorties et donc il y a une remise en question en moi-même déjà sur mon projet parce que je me suis dit bon bah ok je vais peut-être faire la même chose que les autres. Sauf qu'en me penchant beaucoup plus sur toutes ces œuvres, je me suis dit mais en fait je me reconnais pas forcément dans tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit. Parce que ça me parle pas, en fait, et parce que j'ai un peu l'impression que déjà les points de vue de ces personnes qui ont écrit toutes ces œuvres étaient quand même assez restreints. C'est-à-dire que...
C'était parce qu'elles étaient toutes en couple ou c'est parce qu'elles étaient toutes blanches?
Bon. Ou les deux.
Non, mais je pense que c'est les deux. Mais de toute manière, et ça, je le dis très, très souvent, c'est une très bonne chose, en fait, qu'il y ait eu tout ça, qu'il y ait eu toutes ces œuvres, toutes ces productions. C'est une très bonne chose parce que ça a aidé beaucoup de femmes aussi. Enfin, il faut le dire, ça a aidé beaucoup de femmes. Mais moi, je ne me reconnaissais pas dedans parce que ce n'était pas du tout mon profil, en fait. Et je le dis là, je pense, d'un point de vue aussi très égoïste, ce n'était pas mon profil. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, c'est quand même assez facile pour certaines femmes d'avoir accès au couple, alors que moi, en tant que femme noire, c'est très difficile. En fait, en tant que femme noire, issue de classe moyenne supérieure pour le coup, et ayant grandi en banlieue, enfin, quand je lisais tous ces livres, quand j'écoutais tous les podcasts, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas vraiment été la même chose pour moi, ça ne s'est pas forcément passé comme ça pour moi quand j'étais, quand j'ai essayé d'être en relation ou quand, ou quand je me posais des questions sur l'amour, etc. Et je me suis dit, ah, mais en fait, si je ne m'y reconnais pas, c'est parce que le point de vue est quand même assez très bourgeois. Très bourgeois, très blanc aussi, parce qu'il faut le dire, je pense que l'accès à l'amour n'est pas du tout le même en France quand on est une femme blanche que quand on est une femme racisée. Il y a des paramètres qui sont à prendre en compte. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas parler de tout ça, en fait, à la place.
Bah, Douce, est-ce que tu penses, toi, qu'une révolution romantique est vraiment en train d'avoir lieu?
Non. Pour faire simple. Non, mais pour étayer mon propos, c'est que, comme disait Christelle, en fait, c'est l'avènement, en tout cas, cette révolution romantique qu'on perçoit à travers la production, une croissance, en fait, des œuvres qui remettent en cause le couple hétéro. En fait, c'est pour moi, c'est voilà la remontée en surface de révolutions quotidiennes en fait qui ont déjà lieu à la marge des marches, notamment par des personnes, par des communautés racisées, par des communautés queer, par des productions qui elles ont été invisibilisées ou qui nous viennent d'ailleurs. Et en France, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas en fait depuis, on est en retard de 20 ans en fait, et depuis quelques temps, l'œuvre de Christelle, Amour silencieux, vient combler un vide en fait pour les personnes noires, pour les personnes racisées, pour les femmes notamment noires. Mais ça a toujours existé en fait, et cette révolution là, on a l'impression qu'elle advient parce que le féminisme mainstream, le féminisme en place se penche sur cette question-là. Tant mieux que ça arrive. Mais moi, en fait, ce que je critique et ce qui me fait tiquer, c'est comment tout d'un coup, d'un seul, on invisibilise en fait tous les travaux qui ont été faits par des communautés marginalisées où l'amour, en fait, n'est pas tant une révolution, mais c'est en fait un besoin fondamental pour nous d'exister, par lequel on existe. Et donc forcément, on le révolutionne tous les jours. Comment on arrive à s'aimer dans une société qui nous rejette sans cesse, sans arrêt? Et comment on trouve en fait des stratégies amoureuses, globales, je ne sais pas comment le dire, mais pour exister, quoi.
C'est hyper beau et extrêmement fort ce que tu dis sur s'aimer dans une société qui nous, enfin du coup, qui, je ne m'inclus pas dans le nous, mais enfin, vous avez compris, qui rejette sans arrêt. Et ça me fait penser à une étude que tu cites dans ton livre, Christelle. C'est une étude ouvertement raciste qui est sortie en mai 2011, donc il n'y a pas si longtemps quand même, dans une revue très scientifique et très sérieuse qui s'appelle Psychology Today. C'est une étude raciste du chercheur Satoshi Kanazawa, qui essayait de comprendre pourquoi scientifiquement, entre guillemets, les femmes noires étaient statistiquement bien moins attirantes que les blanches. Je mets 12 000 guillemets. Et cette étude, le pire, c'est qu'elle a été relayée, comme tu l'expliques, par le plus du Nouvel Obs. Alors, ils l'ont relayée en la critiquant, mais ils l'ont relayée quand même. Et donc, qu'est-ce que ça fait de grandir et de se construire dans une société qui t'insulte ouvertement ?
Bah, c'est difficile en fait de se construire dans une société qui t'insulte quotidiennement. Enfin, comment est-ce que tu peux toi-même t'aimer quand on te met dans la face que personne ne t'aime, quand on te le met dans la face vraiment quasi quotidiennement. Enfin, ce que je dis dans le livre justement durant ce passage, c'est que moi j'étais adolescente en fait quand cette étude est sortie. Et que déjà quand on est adolescente, c'est assez difficile de s'aimer quand on est une femme. Mais alors quand on est une femme noire, c'est encore plus difficile. Enfin, en tout cas dans les années 2010, parce que la représentation elle est inexistante. Et parce que justement, on te remet encore dans la face que tu n'es pas attirante et que tu ne seras jamais attirante. Et que, en fait, quand on est une femme noire, on est complètement dénué de romantisme. En fait, on n'est pas du tout considéré comme des êtres romantiques, comme des êtres qui sont censés être aimés, notamment parce que on est situé vraiment au plus bas de l'échelle de la, enfin, de la désirabilité. Je sais même pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais en fait, on n'est pas du tout désirable parce que, enfin, il y a une espèce de marché de l'amour en fait où plus t'es une femme privilégiée, plus tu seras forcément demandée par les hommes et moins t'es privilégiée socialement en tout cas, moins tu seras demandée parce que on n'a pas forcément envie de se montrer à côté de quelqu'un qui socialement ne vaut rien en fait. Et cette étude là. Elle remontre encore une fois que socialement, on ne vaut rien. Et que notre place dans ce marché de l'amour-là, eh ben, elle est égale à ça. On est des personnes qui ne valent absolument rien.
Pardon, j'ai posé une question du coup un peu directe, comme si on était entre amis. Vous, c'est quelque chose dans votre vie, vous avez senti que pour pécho, c'est bien plus galère quand on est une femme racisée?
Bah, ça dépend.
Christelle.
En fait, je pense que ça dépend parce que... Ça peut être galère comme ça peut ne pas être galère. Ça peut ne pas être galère quand t'es entouré de personnes qui veulent te fétichiser, en fait.
Mais ce qui est l'autre versant de la même pièce.
C'est un versant. En fait, il y a une pièce, il y a une face où tu ne peux absolument pas pécho parce que tu n'es même pas considérée comme une femme. En fait, t'es juste une personne ou, enfin, t'es juste une personne, quoi. T'es pas une femme, t'es pas considérée comme un être féminin, en fait. Tu ne représentes pas ce qui est censé être la féminité douce et sacrée, etc. Et l'autre face de la pièce, c'est que tu es juste un corps. En fait, un corps avec des attributs, des grosses fesses, des gros seins, des grosses hanches. Et c'est tout. Tu n'es que ça. Tu n'es qu'un être vulgaire créé pour assouvir les fantasmes de personnes qui rêveraient de se taper des femmes noires ou des blacks, comme ils disent souvent, ces gens-là. Et ouais, c'est difficile, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est très dur de trouver un juste milieu entre les deux.
Douce, tu veux réagir ?
C'est vrai que moi, j'ai tout ce qui est appli de rencontre ou enfin la drague, etc. J'ai du mal avec ça. Mais c'est vrai que dans les couples que j'ai eus quand j'étais en couple avec des personnes blanches, tout de suite en fait, ce rapport-là de fétichisation, il n'était pas forcément frontal, mais on le ressentait quand même au bout d'un moment. En fait, même par l'entourage, même la manière dont tout ce qu'on projetait en tant que couple, c'était hyper dur de sortir en fait de cette image projetée de la femme sauvage avec des prouesses sexuelles donc attendues, donc en termes de libido, comment on se place aussi dans la sexualité et dans la sexualité, c'est-à-dire enfin le fait d'être en tout cas asexuel ou demisexuel. Enfin, qu'est-ce qui est projeté en fait dans le couple à travers juste cette couleur de peau? Et c'était très compliqué pour moi de naviguer dans un couple hétéro, on va dire. Et même quand je pensais que je pouvais m'en sortir dans des couples dits queer, dans des couples qui s'éloignent de la l'hétéronormativité, même dans ça, même dans ces espaces-là, il y avait quand même une certaine attente de ce qu'est une femme noire. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas d'un couple de Gwyn. En tant que meuf noire, foncée de peau, en fait, il y a des attentes liées à ça. Comme on parlait donc de cette étude complètement raciste, parce que en fait, plus on est foncé, plus on a un taux de testostérone qui est élevé. Donc, dans ton couple de lesbiennes, automatiquement, tu es censé incarner la butch, c'est-à-dire la personne qui a une énergie masculine, donc, en tout cas qui navigue avec des codes qui sont plutôt éloignée d'une certaine féminité attendue, douce, etc. Et tout ça, en fait, c'est hyper difficile de se placer toujours dans ces espaces-là et de juste être soi, quoi, tout simplement. Et moi, ça me fait penser, en fait, à la question Christelle, pardon, tu l'évoques aussi, du genre des femmes noires. Et pour moi, c'est central, en fait, dans nos amours. Comment on nous perçoit et qu'est-ce qui est attendu de nous selon un genre ou pas, mais enfin, Christelle, elle en parlera mieux que moi, mais je trouve que c'est essentiel.
À la lumière de tous ces éléments, de ces statistiques, est-ce que vous diriez que avoir accès au couple, finalement, c'est un privilège ?
Non, je rigole parce que privilège, je ne sais pas. Enfin, dans le sens où... bref, mais...
En tout cas, c'est pas une évidence pour tout le monde.
Non, c'est pas une évidence pour tout le monde. Moi, ça n'a jamais été une évidence, le couple. Franchement, je ne me suis pas construite en me disant que mon prince charmant m'attendait. Pas du tout. Parce que je me pose déjà la question de base, est-ce que ce prince charmant-là voudrait être en couple avec une femme noire, en fait? Ça va pas de soi de me dire que le couple hyper romantique, heureux, que l'histoire d'amour hyper romantique m'arrivera, parce que il faudrait déjà prendre en compte que je ne suis même pas sûre qu'une personne voudra m'aimer pour ce que je représente socialement.
Est-ce que c'est ça, la misogynie noire, Douce?
Bah ouais, enfin, la misogynie noire, c'est à la fois très complexe et très simple, en fait. À partir du moment où on est une femme noire, il y a des attentes qui sont projetées sur nous. Et surtout, notre féminité est en fait toujours accolée à une suspicion de masculinité. À une suspicion de... on prend l'exemple, par exemple, de Aya Nakamura. Combien de fois elle s'est mangée des insultes en la comparant... Moi, j'ai été comparée à des footballeurs, par exemple. Aya Nakamura aussi. Et en fait, les gens se disent, mais non, mais c'est marrant, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce sont des choses récurrentes, que ce n'est pas de l'ordre de l'individuel, en fait. Ce sont des choses qui sont systémiques. Et ça, c'est une des faces, en fait, de la misogynie noire. Mais c'est aussi le fait d'être vue, perçue comme des personnes trop bruyantes, trop, par exemple, les Niafou, les Fatou, en fait, toutes ces insultes-là qui... Enfin, Fatou, c'est un prénom, en soi, comme tu dis très bien dans ton livre, Christelle, j'ai kiffé. C'est juste un... Mais en fait, ça vient en général... Pas
pour expliquer, c'est devenu une insulte, un archétype.
C'est ça. Mm-hmm. Beyoncé Koulibaly, je sais plus à l'époque, mais it was a mess. C'était vraiment genre, sur Twitter, etc. Il y avait des insultes, mais pas possible, sur ces femmes noires, en fait, qui sont, bah, pour moi, flamboyantes, qui sont punk, même, comme le dit si bien Amandine Gay. Les Niafou, en fait, is a new punk, parce qu'en fait, elles se laissent pas écraser. Elles sont là pour qui elles sont, avec leur style, etc. Mais ça a été mal perçu, parce que pour moi, le genre, justement, c'est même pas un spectre, c'est une spirale, en fait. Plus on va dans les extrêmes de la féminité, plus on est perçu comme hyper agressif, parce que c'est une féminité qui est hyper agressive. Et notamment avec les lesbiennes aussi, les hard femmes, parce qu'on est dans des ongles qui font peur, on est dans une beauté, en fait, qui est limite alien, et en fait, ça fait peur aux mecs. Et les femmes noires, c'est ça qu'on fait. Dans notre hyper féminité, il y a une sorte d'agressivité, et tout de suite, on est renvoyé à ce truc de misogynie noire. Ah, mais si t'es trop féminine, c'est parce que en fait, soupçon de en fait, t'es un mec ou enfin, et pour moi, c'est ça la misogynie noire, mais on pourrait en parler des heures.
Christelle, oui, vas-y.
En fait, j'ai l'impression que femme noire, c'est vraiment un genre à part entière, et que c'est très difficile, en fait, de se libérer de la misogynie noire ou de ne pas être victime, en fait, de misogynie noire. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi de ce qu'on représente dans l'espace public. En fait, toi, tu l'as très bien dit, la misogynie noire, c'est aussi nous reprocher d'exister, en fait, tout simplement, d'être parfois peut-être excessive, de parler dans la rue, peut-être de parler un petit peu trop fort, mais c'est aussi beaucoup lié au corps, en fait, parce qu'on a des corps qui sont très caricaturés. Tu l'as dit, Aya Nakamura, par exemple, on l'a comparé 1000 fois à des footballeurs. Moi, j'ai été comparée à des footballeurs. Toi, Douce, t'as dit que t'as été comparée à des footballeurs. Et ça va aussi de pair, forcément, avec le fait que plus t'es foncé, moins t'es considérée comme une femme. En fait, plus t'es foncé, moins... Enfin, plus on te retire ta féminité. Parce que déjà, pour qu'on puisse dire ou alors accepter qu'une femme noire puisse avoir une féminité, en tout cas la féminité la plus classique, c'est-à-dire une féminité douce, etc., c'est très compliqué. Mais alors, si t'es foncé, en plus de ça, non, tu n'as pas le droit à cette féminité-là. Tu seras plutôt toujours accolé à une certaine masculinité, à une certaine forme de masculinité. En plus, une masculinité qui est très, très vulgaire. En fait, on te voit comme une femme vulgaire, mais on te voit même pas comme une femme.
C'est ça le colorisme?
Oui, c'est clairement ça le colorisme. C'est que, en fait, plus t'es foncé, moins tu seras considéré par la société, forcément. Mais le truc, c'est que le colorisme, c'est présent partout, en fait, dans toutes les communautés et aussi beaucoup au sein des communautés noires.
Dans ton livre, Christelle, ça me fait penser, tu cites cette phrase qui est le titre d'un recueil de textes sur le féminisme noir qui a été édité par Gloria Hull. Cette phrase, c'est « Toutes les femmes sont blanches et tous les noirs sont des hommes ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, ça veut dire que, que justement, quand il s'agit d'évoquer, de parler de féministes, toutes les femmes sont blanches. On s'imagine des femmes blanches, en fait, dès qu'il s'agit de parler de genre et de féminisme. On s'imagine une femme blanche de classe plutôt moyenne ou classe moyenne supérieure, hétérosexuelle, mince, valide, parce que c'est censé représenter l'universel, en fait, l'idée de la femme universelle. Et forcément, les femmes noires n'existent pas dans ce cas de figure. Et tous les noirs sont des hommes parce que aussi, dès qu'il s'agit de parler de racisme, on voit des hommes, en fait. On défend beaucoup des hommes. Mais pour défendre des femmes noires, quand il s'agit de parler de racisme, c'est tout autre chose. Et j'ai l'impression qu'on se défend beaucoup nous-mêmes, en fait, toutes seules. Et c'est pareil dans le féminisme, on se défend beaucoup nous-mêmes. Toute seule. Et j'ai l'impression qu'on est quand même assez isolé, en fait, que ce soit dans notre genre, dans la classe sociale femme, entre guillemets, comme dans la classe sociale noire. On se défend beaucoup toute seule et on est complètement isolé, je trouve.
Tu citais dans ton livre aussi ce hashtag, je ne l'ai pas dans mes notes, je l'ai dans ma tête, donc je vais le citer comme du mieux que je peux, où il y avait des hommes noirs qui expliquaient « tout est noir chez moi, sauf ma copine », quoi.
Ouais, tout est noir, sauf nos meufs.
Sauf nos meufs, c'est ça. C'est particulièrement un exemple de ce racisme intérieur.
Ouais. C'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Donc, il y a eu un hashtag « Tout est noir sauf nos meufs » qui est resté en tête des tendances sur Twitter pendant plusieurs jours. Et il avait été lancé par un homme noir qui était très, très suivi, mais qui aussi était bien connu pour harceler des femmes noires sur les réseaux sociaux, pour les doxer, etc. Et un jour, il s'est dit qu'il allait lancer un petit hashtag qui était « Tout est noir sauf nos meufs », où justement, il racontait que... tout est noir chez lui, sauf ses meufs. Et donc, il y a beaucoup d'hommes noirs qui se sont joints à lui pour faire des tweets qu'ils considéraient assez drôles. Beaucoup d'hommes blancs, beaucoup d'hommes de toutes les races, en fait. Et ça montre bien à quel point la misogynie noire, en fait, n'est pas forcément l'apanage que des personnes blanches. La misogynie noire, elle provient de tout le monde, d'absolument tout le monde. Et ce que je dis dans le livre aussi, c'est que justement en partant de cet exemple-là, certes, il y a beaucoup de racisme. Les femmes noires subissent beaucoup de racisme quand elles sont, par exemple, en couple mixte. Même si je trouve que couple mixte, ça veut rien dire. Mais c'est pas pour autant qu'elles seront beaucoup plus protégées dans les couples noirs, quoi.
Douce, je te vois prendre plein de notes.
La citation précédente, quand tu dis « toutes les femmes sont blanches et tous les hommes sont noirs », et en fait, la suite, c'est « mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». Et en fait, moi, je m'accroche à cette phrase-là, parce que c'est vrai que la question du genre, en fait, des femmes noires, elle remonte à la période esclavagiste et comment, en fait, on était en fait, perçus comme des objets meubles appartenant au propriétaire. Et en fait, la féminité, le genre des femmes noires n'était pas du tout quelque chose, c'était pas une réalité en fait. Donc on était à la même enseigne que les hommes noirs. Et en fait, depuis, on se bat d'une certaine manière à récupérer en fait cette humanisation à travers le genre. Sauf que le genre perçu en Occident, comme tu l'as très bien dit, on ne convient pas en fait à cette féminité qui est très blanche, très cadrée, etc. Et la question du genre, c'est pour ça que moi, en fait, quand je parle de révolution romantique qui n'advient pas, pour moi, la question du genre, elle est fondamentale. Il y a un concept qui s'appelle la positionnalité. C'est-à-dire que quand on me voit dans la société, ma position n'est pas celle d'une femme, c'est celle d'une personne noire. Et forcément, je vais me bouffer toutes les oppressions liées à ma condition de personne noire. Et en fait, la question du genre, c'est comment en fait, on arrive non plus à se retrouver dans le genre femme en tant que noire, puisque j'ai l'impression que ce sera quelque chose qu'on pourra jamais atteindre dans une société de suprématie blanche, en fait. Et comment, en fait, on arrive à sortir du genre, à sortir de la binarité du genre et à s'élever en tant que sujet noir. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une des clés qui pourrait nous amener en fait à dire dans un couple, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, nous sommes deux êtres noirs, asiatiques, blancs, etc. Et en fait, remettre la question du genre racial. Enfin, je sais même pas comment le dire, mais et donc c'est essentiel que qu'on arrive à produire aussi des pensées comme ça liées à cette brèche là qui est très étudiée aux États-Unis, mais en France
c'est la positionnalité.
Tout à fait.
Qu'est-ce que le concept d'amour noir douce?
C'est marrant, j'avais écrit un article en 2016 qui s'appelait Au fait, c'est quoi le black love? Parce que c'était très glamourisé, en fait. C'était tout le temps des stars, machin. En général, bon, on louait, en fait, des footballeurs qui étaient avec des femmes noires, tellement c'est rare en France, tu vois. Et c'était ça, le black love, tu vois. Et en fait, je me suis posé la question. Et pour moi, l'amour noir, c'est l'amour communautaire. Mais c'est un amour qui, à la fois... Qui est tout le temps en mouvement, en fait. C'est un amour qui vient de l'intérieur, qui se nourrit soi-même. C'est-à-dire où, en fait, tu déconstruis, tu reconstruis tellement de choses sur ton apparence, sur ce que tu as hérité de transgénérationnel, de ce que tu vis au quotidien. Et aussi comment, en fait, cet amour-là, tu le déverses pour ta communauté. Au-delà même du couple, au-delà même des amitiés interpersonnelles ou de la famille, c'est bien plus large que ça. Quand Aïssa Rae a dit « I'm rooting for everyone who is black », pour moi, je me reconnais dans ça. Même si, bon, il y a des différences aussi. Est-ce que je soutiens Kanye West ou Jay-Z alors qu'ils sont millionnaires, mais juste parce qu'ils sont noirs? Mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est ça l'amour noir. C'est un amour communautaire qui est à la racine même de mon être.
Mais je suis complètement d'accord avec cette définition de l'amour noir, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de raccourcis dès qu'il s'agit de parler de black love, un raccourci à l'amour romantique, en fait. Et on ne s'arrête qu'à ça, systématiquement qu'à ça, alors que pour moi, c'est pareil. L'amour noir, c'est vraiment aimer sa communauté noire, la soutenir, pas conditionnellement, évidemment, mais juste se réjouir de voir qu'on peut aussi s'aimer soi-même dans une société qui ne nous aime pas. C'est soutenir, comme tu l'as dit, les Noirs, comme l'a dit Aïssa Rae, c'est vraiment essayer de nous valoriser au maximum et faire en sorte qu'on puisse s'aimer, en fait, tout simplement. Sauf que, aujourd'hui, quand on nous parle de black love, c'est que le romantisme, en fait, c'est que l'amour romantique.
Je voulais te poser une question, Christelle, justement, par rapport à l'amour noir. Est-ce que tu penses que c'est possible pour deux personnes noires, dans un couple hétéro, de pouvoir nourrir cet amour noir-là, loin des modèles du couple occidental blanc, parce que j'ai l'impression qu'on est influencé aussi, puisque la suprématie blanche, c'est aussi très colonial, même dans nos rapports amoureux. Est-ce que tu penses qu'on peut sortir de ce modèle occidental blanc et pouvoir nous recréer un amour noir safe, bienveillant, même avec des hommes hétéros, quoi?
Oui, c'est vrai que mon livre, il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais en fait, j'ai beaucoup d'espoir. Et je pense que... Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de nos aînés aussi et regarder nos aînés. Enfin, par exemple, quand je regarde mes parents qui sont mariés depuis à peu près 150 ans, franchement, je vois que ça peut exister quand même. Cet amour noir où vraiment on se valorise entre nous et on s'aime profondément. Et mes parents ne sont pas nés en France, tu vois. Ils ne sont pas nés en France, ils sont arrivés en France il y a 30 ans, et ils ont quand même gardé leur tradition et leur racine congolaise, malgré le fait qu'ils vivent en France depuis 30 ans. Donc je pense que ça existe, forcément, mais après c'est clair que dans nos générations à nous, ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on a grandi ici, déjà, parce qu'on a grandi dans une société où le blanc était au centre, en fait. Le blanc était toujours valorisé pendant que nous, on était dévalorisés. Et que quand tu te construis dans une société pareille, c'est vraiment difficile de s'en affranchir, en fait. Et c'est difficile aussi de pouvoir s'en affranchir au sein de son couple, même si tu as toute la volonté du monde pour justement valoriser cet amour noir-là, quoi. Donc je pense qu'il faut, regarder nos aînés aussi, même s'il y a beaucoup de choses à laisser de côté de leur part.
Est-ce qu'on peut décoloniser l'idée de l'amour?
C'est une thèse.
C'est vrai que c'est un sujet de thèse.
Pour moi, vu que tout est lié, Pour moi, décoloniser l'idée, en plus, l'idée de l'amour.
Ou décoloniser l'amour, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai pris des détours.
Non, mais je trouve que l'idée, c'est bien, parce que l'amour en soi, l'amour est là. L'amour ne nous attend pas, l'amour est là, tu vois. Mais notre idée qu'on en fait, c'est autre chose. Et en fait, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que, pour moi, l'amour, c'est revenir à la racine de ma communauté. Et qu'est-ce que ma communauté a vécu ? Ma communauté a vécu un effacement de ses traditions, de sa manière de vivre l'amour, de vivre l'autre. Quand je dis ma communauté, c'est donc la communauté noire, donc africaine à la base, qui s'est éclatée en, en diaspora forcée, on va dire. Et en fait, où le genre, où les sexualités, où la manière de vivre la famille, d'avoir une famille éclatée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où en fait, un enfant est élevé par l'amour de plein de personnes, de toute une communauté. Tout ça, en fait, moi, je veux revenir à ça. Donc, pour ça, il faut aller voir dans toutes les branches. Il faut aller voir dans le genre, il faut aller voir dans les sexualités. Comment, en fait, il y avait des femmes qui étaient en couple, qui étaient inscrites dans la société et qui élevaient des enfants, qui n'étaient pas en marge et qui étaient acceptées. Et c'était un fait. Sauf que l'Occident est venu à saper tout ça, à créer donc des migrations, donc c'est-à-dire que les personnes noires en général ont été exilées de leur territoire, de leur terre, pour s'inscrire dans une réalité occidentale. Et depuis, on a perdu cet amour-là, on a perdu cette manière de voir en fait et de vivre un amour qu'on a toujours eu. Et c'est très compliqué. Par exemple, quand je parle d'élever un enfant en Occident avec plusieurs personnes, mais comment tu fais ? La réalité te ramène aussi, tu te cognes au mur de la réalité. Comment tu arrives à... Et notre génération, j'ai l'impression qu'on s'interroge aussi sur ça. Il y a des formes de des amitiés amoureuses, où il y a des manières de vivre aussi en coloc, ou peut-être dans des squats, j'en sais rien, mais en tout cas... Il y a des balbutiements, même si pour les personnes noires, c'est compliqué aussi. Nous, on n'a pas encore ce niveau-là. Pour nous, on aimerait, par exemple, atteindre la propriété pour enfin se sentir en sécurité et vivre cet amour et cultiver cet amour en famille. Et alors qu'il y a d'autres communautés qui sont, elles, déjà dans un truc de « on va éliminer la famille ». Donc, il y a des modalités qui sont très compliquées. Mais en tout cas, décoloniser, l'idée de l'amour, c'est... déjà aller chercher dans l'histoire, raconter des histoires, raconter des poèmes, écrire des livres, faire de la théorie, tout ça, remettre tout ça au goût du jour, quoi. Apporter de l'information. Ouais.
Je suis contrainte de vous interrompre une petite minute. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si la révolution romantique est un truc de blanc, un truc de blanche, et nous sommes en la délicieuse compagnie de Christelle Murula et Douce Dibondo. Je profite de cette petite pause pour vous dire que si vous aimez cette conversation, n'hésitez pas à venir la poursuivre sur Instagram en suivant Binge Audio. Dans ton livre, Christelle, tu as une formule qui est, je trouve, brillantissime pour parler du célibat, qui est le Hunger Games du dating. C'est franchement, vraiment, tu as plié le game. C'est vraiment la meilleure formule, je trouve, pour décrire ce que c'est que le dating. Aujourd'hui, il y a un mouvement aussi dans le féminisme du célibat politique ou du célibat choisi, du célibat assumé. Est-ce que c'est un truc de bourgeoise de revendiquer son célibat ?
Franchement, ouais. Non, mais parce que, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, depuis la nuit des temps, en fait, qui sont célibataires, que je pense qu'elles sont politiquement célibataires, c'est-à-dire qu'elles ont toujours revendiqué le fait qu'elles souhaitaient rester seules, mais elles n'ont jamais eu l'occasion de le coucher sur un papier ou de le crier partout, en fait. Non, juste elles étaient juste considérées comme des parias, en fait. Elles n'étaient pas forcément portées au nu pour leur célibat choisi. Alors qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle vague de femmes qui sont, pour le coup, plutôt bourgeoises, qui, elles, justement, sont vraiment valorisées parce qu'elles ont choisi le célibat. Et moi, ce que je me demande dans le bouquin, c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre que ce soit les femmes privilégiées qui revendiquent quelque chose pour que ce soit enfin considéré comme accepté et acceptable. En tout cas, acceptable dans une certaine sphère. Parce que je trouve qu'on est quand même dans une petite sphère.
Oui, tu cites en exemple aujourd'hui, avec l'ouverture de la PMA, à presque toute la revalorisation un peu de l'image de la mère célibataire ou de la maman solo,
Alors que tu te dis, mais la mère célibataire à Aulnay-sous-Bois qui galère depuis 30 ans, en fait, elle n'a pas fait son podcast ou son bouquin. Et du coup, elle n'a même pas le droit de faire son podcast et son bouquin, quoi.
Bah non, alors que franchement, sans vouloir romantiser leur situation, mais ce sont des femmes qui sont extrêmement fortes, en fait, qui s'en sortent et qui, malgré tout, ce qu'elles peuvent se prendre dans la gueule, c'est-à-dire les jugements, le jugement par le fait qu'elles soient des mères célibataires ou alors le fait qu'elles sont précaires et que juste elles doivent survivre. Moi, j'aimerais bien écouter cette expérience-là. J'aimerais bien que cette expérience-là soit valorisée dans les récits qu'on nous vend à longueur de journée, en fait. Mais ce ne sont pas forcément ces récits-là qu'on entend. C'est toujours plutôt les récits de femmes qui sont très privilégiées, qui sont de classe plutôt bourgeoise. Et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça très dommage. Et pendant mes recherches pour ce bouquin, j'étais tombée sur une étude qui, justement, montrait que, en fait, les femmes célibataires s'en sortaient beaucoup mieux que les femmes de classe moyenne ou de classe supérieure, les mères célibataires plutôt, parce que en fait, ça ne changeait absolument rien à leur vie d'avoir un compagnon ou pas, parce que de toute manière, elles se débrouillaient déjà toutes seules. Mais à côté de ça, dans l'étude, on montre que justement, les mères célibataires de classe plutôt bourgeoise, elles, ont beaucoup plus de mal à accepter leur situation. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce sont les récits des mères célibataires plutôt bourgeoises qu'on porte au nu, en fait. Pas ceux des mères célibataires qui se débrouillent depuis la nuit des temps. Et je trouve ça dommage, en fait, tout simplement. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre que ce soit les femmes les plus privilégiées qui prennent une...
qui légitime ou voilà, qui glorifie une situation.
C'est ouais. Ça, c'est ça, en fait. Qui légitime une situation alors que ça existe depuis la nuit des temps et par des femmes beaucoup plus précaires qu'elles.
Douce.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est en fait c'est un aval de la société parce qu'on est dans une époque très libérale et très boss... boss friendly où en fait c'est la question de la nécessité et du choix, et dans notre société le libéralisme nous fait croire qu'on a le choix, et donc quand t'es une femme célibataire tu dis j'ai le choix, je suis indépendante, on t'acclame. Par contre si en fait c'était par nécessité et que t'as dû charbonner toute ta vie, on va dire ça fait un peu pitié quoi, enfin en plus c'est toujours les mêmes personnes, les femmes noires c'est parce que ton mec il est en prison ou parce que l'imaginaire. Donc, on va pas porter ça médiatiquement, ça va pas être une hype. Et donc, c'est ce truc de choix et de nécessité. Et Christelle, t'en parlais bien aussi, en fait, des femmes célibataires noires, parce qu'il y a un système social aussi chez les femmes noires, ou une personne racisée, qui fait que, en fait, oui, il y a une obligation à prendre la famille à bout de bras et à s'en sortir. Et on retombe dans ce truc de misogynie noire, la figure de la mama ou de la femme agressive ou angry woman, parce qu'en fait, la femme forte, la résilience comme combat et tout ça. Et en fait, les personnes bourgeoises, les femmes bourgeoises, elles ont le privilège de... de décider de leur vie comme ça, du jour au lendemain, et de montrer qu'elles, elles ont leur vie en main parce qu'elles le veulent. Et c'est ça qui est souvent mis en avant.
Tu as écrit un billet de blog qui est très intéressant sur le polyamour, Douce. Est-ce que tu penses que ça peut être un vecteur d'émancipation ?
Pour moi, c'est le polyamour, arriver dans cette sphère-là, l'accepter dans son couple, c'est faire un travail immense. En termes psychologiques, comment en fait tu t'attaches à une personne, quelles sont les modalités qui bénéficient en fait d'un capital symbolique très fort en termes de séduction, qui a la possibilité de sortir, de rencontrer des gens, en général, est-ce que c'est un polyamour avec des personnes hétéro ou en fait dans des couples queer, et tout ça en fait on n'en parle pas, c'est parce que on voit nouvellement le polyamour comme la solution justement pour sortir du couple sclérosé hétéro, etc., qu'on se pose pas du tout la question. Et pour moi c'est Joao Gabriel qui en parle très bien, qui dit qu'en fait, le polyamour, une fois de plus, c'est un truc très néolibéral, parce que les personnes, en fait, elles se disent, bah, très bien, on a pas besoin de mettre en commun nos ressources, on supprime la famille, et juste, on vibe, on flex, on a plusieurs partenaires, et c'est bon, voilà. Alors que, en fait, la famille, et notamment le couple, et Christelle t'en parle, je pense que t'en parleras très bien, largement mieux que moi, quand tu dis, en fait, c'est... Le couple, s'il y a des personnes, il y a des femmes pauvres qui n'ont pas d'autre choix parfois que de se mettre en couple, en fait, parce que bah, il y a une mise en commun des ressources. Et le polyamour, il n'y a pas du tout cette question-là, en fait. Et pourtant, enfin, polyamour, c'est censé être communautaire, c'est censé être révolutionnaire. Enfin, mais le libéralisme, en fait, nous met dans une sauce à chaque fois, quoi.
Christelle, sur le polyamour, tu veux réagir ?
Je trouve que t'en parles beaucoup mieux que moi, le polyamour. Mais non, mais sur le fait que ouais, il y a juste des femmes qui n'ont même pas le temps de penser au polyamour, parce que juste, pour elles, le couple monogame, c'est la seule option. Parce que ça leur permettrait aussi d'avoir une porte de sortie à la précarité. Donc là, j'enlève tout le côté romantique hein, du couple, etc. Mais... En fait, c'est toujours mieux d'être pauvre à deux. En fait, c'est toujours mieux d'être sûr, et encore, de pouvoir compter sur quelqu'un avec qui tu es, de compter sur elle financièrement, parce que toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu dois penser à comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais bouffer, comment est-ce que je vais réussir à nourrir mes enfants. Et en fait, je trouve que c'est quand même... Enfin, tout ce qui est polyamour, anarchie relationnelle, enfin, tout ça, tout ce spectre-là... C'est quand même c'est des pensées qui sont quand même très philosophiques, et je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont absolument pas le temps de penser l'amour de manière très philosophique. Non, en fait, il faut juste rentrer dans le rang, parce qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir s'en sortir, en fait, et il faut pouvoir upgrade dans sa propre classe sociale, et la seule manière de upgrade pour certaines personnes, c'est juste d'être en couple avec quelqu'un, parce que aussi être en couple avec quelqu'un, c'est avoir un accès beaucoup plus facile à la propriété, un accès beaucoup plus facile au logement, enfin à plein de choses en fait.
Douce, tu en parlais tout à l'heure, tu évoquais la question des relations queer aussi. Est-ce que le lesbianisme politique est aussi un outil d'émancipation pour les femmes noires, selon toi?
En gros, le lesbianisme politique, ça a été théorisé par Monique Wittig et Adrienne Reich, qui en fait postulent que les femmes lesbiennes ne sont pas des femmes, et que en fait le fait de relationner avec des femmes, au-delà même de l'amour romantique, c'est une manière politique de s'extraire de l'hétérosexualité, du régime obligatoire de l'hétérosexualité. Faire communauté avec des femmes, c'est mettre en commun justement des ressources, c'est du soutien, etc. Mais en général, en fait, on ne précise pas que ce sont des femmes blanches. Et le luxe que de s'extraire de la société, c'est très blanc, c'est très, très occidental, en fait. C'est je me casse, je vais élever des chèvres dans le Tarnac. Mais oui, mais il y a qui dans le Tarnac? Qui peut acheter un terrain dans le Tarnac, en fait? Même dans la situation, quand on arrive, un groupe de femmes noires qui arriveraient, lesbiennes, qui arriveraient dans un coin perdu pour vivre en fait son lesbianisme politique, se confronteraient à la mairie. Enfin, il y a plein de choses réelles en fait. Et du coup, comme on en revient à cette question du genre, en tant que femme noire, on n'est déjà pas en fait des femmes. Donc le lesbianisme politique, pourquoi pas? Mais il nous sert pas à grand chose en fait. En tant que lesbienne noire, sans la lesbianité, je suis déjà pas une femme. Donc et en fait, c'est ce qui a été reproché à Monique Wittig et même à Judith Butler, parce qu'en fait, elle s'est inspirée des essais, des manifestes du Combahee River, donc celle qui disait toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes. Parce qu'elles avaient déjà posé en fait, le postulat en disant bah, « Nous, en tant que femmes noires, on n'est pas des femmes, donc votre lesbianisme politique, pourquoi pas ? Mais nous, on n'a pas le luxe de s'extraire de la société, en fait. On doit s'ancrer dans la société, et surtout, en tant qu'afroféministe, notre rôle, entre guillemets, notre volonté, c'est de la libération noire. Et la libération noire, c'est autant les enfants noirs, les petits garçons que les petites filles. C'est autant les hommes noirs, même si on prend cher et qu'on doit régler des choses aussi avec eux. Donc on ne peut pas s'extraire, en fait, de la société. Et moi, c'est ça, c'est une des critiques, en fait, que j'appuie, en me basant sur le combat Yee River, lesbianisme politique. J'ai un peu des doutes.
En tout cas, on a hâte de lire ton post. C'est vraiment hyper intéressant. On apprend plein de choses. Dans ton livre, Christelle, tu cites l'autrice Fania Noël, qui explique que le besoin de désirabilité est beaucoup plus difficile à atteindre pour les femmes noires. Et donc, du coup, elles sont bien plus avancées que les autres femmes dans l'affranchissement du male gaze ou du besoin du male gaze. Fania Noël, elle écrit « Vouloir être désiré, désirer le désir ne sont pas l'objet de notre contre-politique. Notre contre-politique vise à remettre en question l'hégémonie masculine et bourgeoise sur la division entre celles et ceux qui peuvent être choisis et celles et ceux qui doivent attendre d'être choisis. » Je trouve ça extrêmement fort ce qu'elle écrit, cette femme. En fait, le but d'une révolution romantique noire, si j'ai bien compris, si je dis pas n'importe quoi, c'est pas d'être considérée comme aussi belle que les autres, en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est de renverser la table. Dans ton livre, tu as une phrase qui est très belle et assez sombre. Tu expliques « Pour une femme noire, la validation passe autant par un regard masculin que par un regard blanc. » En fait, c'est un white male gaze. C'est ça le poids qui pèse sur les épaules des femmes noires.
Ouais, il y a white gaze aussi, white male gaze. Enfin, il y a tous les regards, en fait. Nous, on doit vraiment s'affranchir de absolument tous les regards. Et c'est très difficile dans une société où en fait, le male gaze prime et le white gaze prime aussi. Et c'est pas forcément... comment dire ? Par exemple, je vais prendre comme exemple le film Bande de filles de Céline Sciamma. Donc Céline Sciamma, réalisatrice féministe, etc., qui est connue aussi pour son female gaze, justement, pour filmer les femmes d'une certaine manière, en les respectant, en montrant aussi un amour entre femmes, un très bel amour entre femmes. Mais il y a le film Bande de filles aussi. Elle a réalisé le film Bande de filles, donc Bande de filles... qui est sorti en 2014, qui suit quatre femmes noires de banlieue, etc. Ce film, il est empreint de white gaze, je trouve. C'est du white gaze, c'est une manière de filmer les corps de ces jeunes femmes noires, comment dire, d'une manière assez lourde. Je trouve pas d'autre mot. C'est vraiment empreint de cliché aussi, ce film. Et pourtant, Céline Sciamma, c'est quand même... l'une des icônes féministes de notre génération. Donc, c'est assez difficile, en fait, de pouvoir s'affranchir totalement d'un regard quand on est une femme noire, parce que, de toute manière, j'ai un peu l'impression que seuls nous-mêmes pouvons nous représenter ou nous montrer de la manière la plus juste, en fait.
Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est une question peut-être un peu personnelle, mais donc si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci, tu te sens libérée de ce white gaze, de ce male gaze ?
Je pense que j'y arriverai jamais. Hein. Enfin, pourtant, j'ai écrit tout un livre là-dessus, mais c'est difficile. Mais comme pour toute personne, en fait, comme pour une féministe blanche hétérosexuelle, je pense que ce serait toujours difficile de se libérer du regard masculin. Pour moi, qui suis féministe noire, ce sera toujours difficile de me libérer du regard blanc et du regard masculin aussi, quoi. Je me répète beaucoup, hein, mais c'est assez compliqué de se libérer de quelque chose quand t'as baigné dedans depuis ton enfance. La personne qui arrive totalement, c'est une warrior et j'aimerais bien lui demander, mais comment tu fais ?
Et toi, Douce ?
Moi, je sais pas si je me libère, en fait, du regard. Moi, j'ai l'impression plutôt que je me suis juste retournée vers autre chose. Je sais que le regard, il est en coin. Je sais qu'il est là. Je sais que j'ai la voix blanche dans ma tête ou la voix mâle dans ma tête. Mais j'écoute d'autres voix et ces voix, elles sont noires. Ces voix, elles sont queer et ça me permet en fait de faire taire les autres voix et d'apprendre aussi à les tuer. Enfin, le but, c'est de les tuer, de s'affranchir. Mais je pense pas que je pourrais voilà, fondamentalement m'en libérer, puisqu'on baigne dans, en Occident, où tout nous rappelle en fait à quel point il y a une supériorité, même si désormais on nous fait croire que l'infériorité des Noirs n'existe pas. Mais en tout cas, on nous rappelle bien souvent que en fait, la supériorité des hommes, des personnes blanches, etc., est bien là. Bah, moi, j'essaie justement de créer des îlots pour pouvoir m'affranchir en termes culturels, mener des révolutions culturelles, faire des festivals où on représente justement, on met en avant des personnes noires. Enfin, tout ce travail-là, c'est un travail du soi aussi, mais toujours inscrit dans le collectif. Et ça, ça m'aide. Et à un moment, il y a un post que j'avais fait sur Mediapart où je disais « I put my black sunglasses ». Et c'est que ça maintenant. Peut-être que je vais mourir en termes de je sais pas, culturellement, et que j'aurai pas tout le savoir cinéphile ou musical ou je sais pas quoi. Mais maintenant, je fais le choix. Je me dis, ce qui rentre dans mes oreilles, ce qui me nourrit, ça va être des personnes noires. Parce que j'ai passé 25 ans de ma vie, en fait, à même au Congo où je suis née, où il y avait que des personnes noires autour de moi, tout ce que je voyais à la télé, c'était que des personnes blanches. Donc, le lavage de cerveau, il a commencé très tôt. Et du coup, je m'octroie le droit, désormais, vraiment de consommer, en tout cas de vivre noir, quoi. Et ça, je pense que ça m'aide un peu.
Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment passionnant de vous avoir écouté. Merci d'être venus avec nous, Christelle Murula et Douce Dibundo. Un grand merci aussi à notre chargée de production, Charlotte Bex, et à notre réalisateur, Quentin Bresson. C'est déjà la fin de cet épisode. À très vite, les amis. On se retrouve dans 2 semaines.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.